Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Bienvenue au 16e Festival international de science-fiction Utopiale. 16e édition à Nantes, 18e édition de ce festival qui a commencé en Poitiers en, 90, à Poitiers en 98 et qui s'est déplacé à Nantes en 2000. Voilà, très heureux d'être présent sur cette scène. Je m'appelle Patrick Guiguer, je suis le directeur du lieu unique. Je suis avec Nicolas Nova. Et on va parler de la disparition du futur, donc qui est un sujet évidemment intéressant pour nous qui nous intéressons à la science-fiction. Nicolas Nova est essayiste, auteur, on peut même dire, écrivain, enseignant à la Haute École d'Art et Design à Genève, où vous traitez de l'ethnographie, l'histoire des cultures numériques, de la recherche en design, également cofondateur du Near Future Laboratory, donc laboratoire du futur proche, une agence de recherche et d'innovation entre autres en design, de prospective également, cofondateur de la conférence LIFT, qui est une grande conférence sur souvent l'avenir. On se souvient d'une belle édition 2009 qui s'appelait Where did the future go, où est passé le futur. Donc vous êtes obsédé, hein, on peut le dire, par le futur. Vous êtes docteur en interaction, design d'interaction, vous nous expliquerez ce que c'est, sur les questions d'homme-machine de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. Et vous avez été invité aussi comme chercheur à l'Art Center de Pasadena, en Californie. Donc vos thèmes de recherche sont les jeux vidéo, quand même pas mal, puisque vous avez participé à pas mal d'expositions sur cela, les nouvelles habitudes liées au numérique, aux nouvelles technologies, les imaginaires du futur, et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, des ouvrages plus ou moins farfelus, on pourrait dire aussi, puisqu'il y a entre autres un ouvrage sur le reggae 8 bits, collision et créolisation, Dadabot, sur les machines et leur créolisation également, peut-être qu'on pourra l'évoquer, le pouvoir des jeux vidéo, un livre aussi sur les joypads, donc les joysticks, en gros, dans les jeux vidéo, et cet ouvrage-là, disponible dans toutes les bonnes librairies, dont celle du festival, je pense, sorti aux Moutons Électriques, célèbre maison d'édition science-fictive, s'il en est, non pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle publie de la science-fiction, sur la panne des imaginaires technologiques. Vous êtes également un homme des réseaux électronique, comme on dit de nos jours, puisque vous avez à la fois des comptes Twitter, Instagram hyperactifs, vous avez toujours un blog, j'imagine, et vous avez même un truc complètement dingue qui est une newsletter chaque semaine sur des nouveaux usages numériques et les vocabulaires entre autres du numérique. Donc voilà, je vous enjoins à vous abonner à la newsletter Nicolas Nova. Autant de moyens de récolter de l'information et de la propager, j'imagine, pour vous. Je vais terminer la présentation là, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler. Autre projet fort intéressant qui ouvre lundi à Saint-Étienne, à la Cité du Design, un projet qui s'appelle Culture Interface Numérique et Science-Fiction. Comment le design s'empare de la science-fiction et l'inverse. Voilà, donc vous nous parlerez de ça, entre Avatar, Retour vers le futur, 2001, Iron Man, Star Trek et j'en passe. Mais on va parler surtout de cet ouvrage futur point d'interrogation, la panne des imaginaires technologiques. Dans cet ouvrage, vous avez deux hypothèses, on va dire. La première, c'est que la science-fiction s'est complètement fait distancier par le réel. Voilà, peut-être est-ce cliché, mais on peut l'évoquer. Mais surtout, la seconde, c'est que la création d'imaginaire du futur n'est plus réservée, n'est plus l'apanage de la science-fiction, pour autant qu'elle l'ait été. Vous évoquez dans les premiers chapitres le fait que la pensée que vous qualifiez de moderne, du début de la première moitié du XXe siècle, celle du Corbusier ou du designer américain Norman Bell Geddes, a forgé d'une certaine manière la science-fiction. Donc, quelque part, il y a une forme d'attaque peut-être vers la science-fiction, en tout cas dans ces images, l'image qu'elle produit, puisqu'on sait que la science-fiction produit à la fois de la conjecture, mais que cette conjecture elle est souvent sous forme d'image, mais qu'en fait la science-fiction, même celle de l'âge d'or, ne serait pas aussi innovante qu'on pourrait l'imaginer.
Alors dans le D'abord, merci de l'introduction élogieuse de mon profil. Mais enfin, un des points de départ du livre, c'est pas nécessairement de vouloir attaquer la science-fiction de manière frontale. Moi, je suis un grand lecteur de SF depuis très longtemps, mais en évoluant dans différents milieux, qu'il s'agisse du milieu des technologies, de l'informatique, également celui du design. Et le design, c'est pas juste hein, des chaises globuleuses violettes, c'est aussi la création d'interfaces, c'est aussi la mise en forme, qu'elle soit graphique ou de produits. Donc en évoluant dans ces milieux-là, j'ai découvert toute une forme d'histoire en fait de ces différents champs qui m'a amené aussi à questionner d'où venaient les représentations qui pouvaient être présentes dans des œuvres de science-fiction, qu'il s'agisse de pulps, de bandes dessinées, de nouvelles, d'ouvrages divers, de films, et se dire que toutes ces représentations, hein, ces espèces de grands types d'imaginaires qui sont véhiculés dans la SF, ils sont pas apparus juste dans la science-fiction, ils sont apparus à différents moments de l'histoire, particulièrement à la fin du 19e, début 20e. Des découvertes scientifiques, technologiques, dont sont emparés des auteurs de science-fiction pour les mettre en forme. Et c'est là toute la qualité justement de la science-fiction, c'est de mettre en forme par des représentations diverses les conséquences possibles de ces technologies. Mais dans le même temps, on peut revoir ça dans l'art de l'époque. Donc on parlait de Le Corbusier ou d'autres personnes, ou d'autres designers, ou d'artistes, ou d'architectes, hein, dans les années 20, 30, 40, qui faisaient aussi ça de manière parallèle et concomitante avec la science-fiction.
C'est vrai qu'on a l'impression que la science-fiction est en lien avec le monde réel à travers la science, parfois, et les technologies surtout. Mais on oublie, ou en tout cas, on élude le fait que la science-fiction, en fait, est en rapport assez étroit également avec d'autres formes d'art, d'autres formes d'illustration, de littérature, de cinéma, et que sais-je. Et est-ce que, par exemple, je sais pas, je pense à Ed Emshwiller, qui est un grand illustrateur de science-fiction des années 30 et 40, qui est devenu l'un des pionniers des films numériques, justement en Californie. Et on a l'impression que ce sont des champs, que la science-fiction, en fait, évolue un peu en vase clos, d'une certaine manière, en tout cas dans ce milieu-là, non ?
On s'en rend compte quand, par exemple, on regarde des... je pense à des designers comme Norman Ben Gillis, dont on parlait tout à l'heure, qui est à la base, années 30, accessoiriste de théâtre américain, qui s'est fait solliciter pour l'Expo universelle de 1939 à New York par General Motors, hein, grande société automobile, et General Motors l'a chargé de montrer aux gens comment serait le futur. Donc il a imaginé une espèce d'immense maquette de la ville moderne avec des gratte-ciel, des boulevards dans lesquels circulent évidemment des voitures de General Motors. Et c'était présenté. Enfin, tout son travail a consisté à mettre en scène des représentations possibles de l'urbain, de la ville du futur, pour que les gens voient cette espèce d'idéal de la mobilité qui évidemment pourrait servir General Motors. Et c'était un des premiers exemples, moi, qui me frappe de la mise en forme, qui n'est pas de créer une œuvre de science-fiction au sens classique. C'est pas nécessairement une bande dessinée, un pulp, une nouvelle, un film. C'est de créer une maquette, un objet dans lequel les gens rentraient dans un espèce d'immense pavillon, comme on le voit dans les expos universelles, et pouvaient voir ou ressentir cette espèce de représentation de l'avenir, à tel point qu'ils ressortaient du bâtiment, ils avaient un badge avec marqué « J'ai vu le futur ». Je pense que ça doit se trouver sur eBay pour une fortune, ce genre de choses.
Oui, j'en ai acheté un.
T'en as acheté un, ouais. Moi, je me suis pas ruiné. Mais ça, c'est juste un exemple pour montrer que, de manière complètement parallèle à ce qu'il pouvait y avoir à la même époque chez des auteurs de science-fiction, il y avait aussi d'autres pratiques qui existaient, qui n'étaient pas forcément dans les mêmes logiques de publication. Et on a un peu l'impression que... quand on voit l'évolution de la science-fiction, tout ça a été un peu oublié, alors que ça a été un cheminement parallèle, et que finalement, cette espèce de volonté de représenter demain, d'essayer de se questionner sur ce que c'est que demain et les enjeux technologiques, sociétaux, politiques, c'est pas juste un champ qui est exploré par la SF. Et ça n'enlève pas du tout la qualité et l'intérêt de plein d'auteurs de science-fiction dans le XXe siècle, bien sûr, mais on a un peu l'impression d'une espèce de séparation comme ça de différentes voies d'exploration de l'avenir.
Mais quand même, avant la Seconde Guerre mondiale et un peu après peut-être, mais pas longtemps après, la science-fiction, elle sert à faire la promotion d'un espèce d'avenir radieux quand même, d'une certaine manière. Elle est là, elle est très elle est principalement optimiste, en tout cas auprès du grand public, et elle semble suivre un peu des grandes visions ultra-consuméristes. Justement, vous parlez de General Motors, il y a d'autres exemples. Et à un moment ça s'arrête, à un moment à la fois la science-fiction se tourne plutôt vers les contre-utopies quand même à partir des années, la fin des années 40, les années 50, et il y a une perte de confiance en cet avenir grandiose qui nous est promis, etc. Est-ce que ça date de là, cette fin d'une vision du futur, d'une certaine vision du futur?
Bah, je pense qu'il faut resituer ça pas juste comme un problème qu'a rencontré la communauté d'auteurs ou de lecteurs et de personnes intéressées par la science-fiction. C'est un phénomène plus large dans différents champs culturels qui a quand même été une prise de conscience de la capacité potentielle de destruction de la planète. Enfin, la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un moment terrible de prise de conscience que la technique, les technologies peuvent être pas forcément aussi utopique et progressive que ce qu'on avait pu le penser. Les catastrophes écologiques, les crises du pétrole dans les années 70 après également. Donc comme ça, il y a tout un mouvement de remise en question du progrès. On en a parlé un petit peu dans une table ronde en début d'après-midi, qui amène évidemment à prendre cette espèce d'objet futur et ses représentations comme quelque chose de un peu difficile à manipuler, et notamment. Le contre-coup de tout ça, c'est l'apparition de toute une forme de critique sociale, sociétale, politique, qu'utilise les moyens de la science-fiction pour montrer les limites de l'idée de progrès, les limites d'enjeux technologiques, des conséquences qui peuvent être potentiellement néfastes. Et plus on avance, plus arrive la difficulté de se dire, mais est-ce qu'on peut quand même essayer d'imaginer des représentations un peu plus positives, idylliques de demain, si on reste sur le lien à la science et la technologie. Et moi, je date plus ou moins de cette époque, hein, ce problème-là.
Vous parlez justement par rapport à cela, à la fois du poids des rétrotypes, peut-être que vous nous expliquez dans votre ouvrage, nous dire un peu en quoi ça consiste, mais également du rôle de ce que vous appelez la normalité manufacturée. Vous pouvez nous dire un mot sur cela?
Pour commencer sur la question de rétrotype, c'est l'idée que et je suis pas le seul à dire ça, hein, c'est un constat qui est partagé à travers d'autres essayistes ou observateurs de cet univers-là, mais c'est ce qu'on appelle rétrotype, ce serait l'idée que dans la science-fiction, dans la spéculation, voire même dans la prospective, il y a un ensemble d'archétypes ou de grands modèles de représentation, particulièrement de technologies. La voiture volante, c'en est un. Les jetpacks, c'en est un autre. Les monorails, alors il y a des rétrotypes très liés à la... qui viennent un peu de ces imaginaires rêvés du futur, mais qui viennent du passé, qui sont parfois liés à la mobilité, hein, comme les exemples que je viens de citer, parfois qui peuvent être liés à des développements technologiques dans le champ des technologies de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, qui sont toutes sortes de représentations rêvées à une époque, ensuite déclinées pratiquement, parce que a fourni des représentations qui ont motivé des chercheurs, des ingénieurs, des designers à les avoir pratiquement, à les créer pratiquement. Mais on a un peu l'impression, quand on lit certaines œuvres de science-fiction, qu'on reste un peu prisonnier de ces rétrotypes qui sont toujours présentes comme un espèce de genre qui est difficile à questionner, ou quand on le questionne, ça ne plaît pas toujours.
À force de peupler le futur d'objets manufacturés d'un certain type, justement, c'est comme si ça ne laissait pas la place à d'autres visions, c'est ça?
Voilà, ça c'est un peu un de mes arguments dans le livre, c'est que ça donne un peu l'impression si on prend un exemple, par exemple le robot humanoïde, il peut y avoir évidemment un sens à ce qu'on ait des robots humanoïdes, mais son poids dans les représentations est si fort que ça empêche, et il y a certains chercheurs qui le disent eux-mêmes, d'essayer d'explorer d'autres voies. Alors, certains le font quand même, avec des robots qui peuvent être zoomorphiques, ressemblant à des animaux, d'autres qui ressemblent ni à un animal, ni à un humain, mais il y a un peu une espèce de croyance d'une voie, de rétrotype, qu'il faut absolument faire advenir, et comme s'il ne pouvait pas y avoir d'autres alternatives explorables, intéressantes. J'avais cette discussion avec un chercheur au Media Lab qui travaille sur des robots mous, qui ont des formes, pas une forme donnée, ça peut être une espèce de boule molle, et qui disait, mais j'ai beaucoup de mal à faire comprendre mon projet, parce que la représentation de ce que c'est qu'un robot, c'est, ça doit être un robot humanoïde, ça doit ressembler à un chien, à un animal. Alors que non, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'explorer autre chose parce que la texture, la forme de cette boule molle, c'est intéressante pour certains contextes, etc., etc.
En même temps, on voit qu'aujourd'hui les robots qui sont faits sont des robots humanoïdes, mais on peut comprendre que si on fait des robots qui sont les outils, ces outils eux-mêmes utilisent des outils que nous avons déjà, donc c'est quand même assez pratique d'avoir des robots qui peuvent prendre des objets qui sont faits pour les êtres humains, non ?
Mais ça n'oblige pas forcément à une forme humanoïde parce que la locomotion, c'est quand même pas forcément la chose la plus facile à résoudre d'un point de vue technologique. Et on voit que si on regarde les robots qui se vendent le plus, hein, c'est des Roomba, c'est des robots aspirateurs qui ont une forme globalement ni humanoïde ni zoomorphique, mais qui sont entre un aspirateur et une espèce de sphère qui bouge. Je veux pas dévaloriser le travail de gens qui s'intéressent aux robots humanoïdes. Je suis juste en train de dire qu'il y a des rétrotypes, des représentations qui parfois bloquent la manière de penser d'autres choses, d'alternatives, d'autres manières de voir le monde, de créer. Je suis dans le contexte d'une école d'art et design, donc c'est aussi le rôle de nos étudiants ou de nous enseignants avec les étudiants, de leur montrer qu'il y a d'autres voies intéressantes, d'autres manières d'imaginer des mondes possibles et pas toujours se rester sur et d'être prisonnier du passé, ce qui est un peu le problème de ce rétrotype.
Et on voit que, bon, en tout cas, dans le domaine de la science-fiction, peut-être on peut passer à cela, c'est que c'est pas si simple que de conjurer des nouvelles images. Hein. Il y a même des espèces d'actions très, très fortes de la part de certains auteurs comme Neal Stephenson, qui lui a pu conjurer quelques images nouvelles, entre autres dans Snow Crash, Samurai Virtuel, en français, et d'autres ouvrages. Il a lancé un projet qui s'appelle Projet Hieroglyph, qui sert justement à amener ces nouvelles images positive du futur, c'est-à-dire il faut créer une espèce de désir pour un futur qui pourrait être là et qu'on n'a pas encore imaginé.
Bah, il faut aussi revenir, enfin sur ce projet de Neal Stephenson, il faut revenir sur la généalogie. Là. Je pense que son intérêt dans tout ça, c'est qu'il avait écrit une tribune dans une revue américaine dont le nom m'échappe, qui s'appelait l'article s'appelait Innovation Starvation, quoi. On pourrait dire en français la mort de l'innovation, dans lequel il faisait le constat que par rapport à l'époque où il était enfant, adolescent, le futur faisait rêver et tous ses amis de sa génération lisaient la science-fiction, sont ensuite tournés vers des carrières dans l'ingénierie pour mettre des gens sur Mars, aller dans l'espace, développer des technologies formidables. Et lui faisait le constat qu'aujourd'hui c'était plus tellement le cas et que la solution possible pour revenir à cette espèce d'idéal, de moment un peu idéal, ce serait de redonner le goût de l'innovation, de la technologie. Et donc il a lancé cette espèce de concours, de projet, là, le projet Hieroglyph, dans lequel l'idée est de faire des ateliers d'écriture, de création pour faire travailler les gens sur la création de nouvelles, d'histoires, de science-fiction qui pourraient réenchanter le monde et donner envie de revenir ingénieur, d'imaginer des solutions technologiques. Alors, c'est intéressant d'un certain côté, mais on peut pas s'empêcher, en tant qu'Européen, je pense qu'on peut pas s'empêcher de voir ça avec un regard un peu critique en se disant mais il y a une naïveté à tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles l'avenir n'est pas aussi enchanté et tout le monde ne se tourne pas forcément vers des carrières d'ingénieur pour faire ça, c'est que on en est un petit peu revenu et il y a quelques problèmes. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'essayer de par la fiction de ramener des gens à vouloir se représenter demain, vouloir travailler sur vivre mieux demain, améliorer les conditions d'habitabilité du monde, d'explorer d'autres univers possibles. Mais la manière dont ça a pu être fait et le résultat, moi j'ai pas lu hein, tout ce qui a été produit, mais je trouvais que parfois c'était un peu une naïveté ou une ingénuité ou une vision très pro-technologie qui manquait un petit peu de recul par rapport à des enjeux qui sont très présents aujourd'hui.
En tout cas, quand on parle de l'utopie de manière générale, et d'une certaine manière, les images du futur sont des formes utopiques, on ne peut pas s'empêcher de penser que le fait de croire qu'un autre monde est possible est indispensable pour l'action d'une certaine manière. On ne va pas imaginer un futur différent de notre présent si on ne peut pas imaginer qu'on peut avoir un autre monde. Et aujourd'hui, peut-être que le problème est là aussi, qu'on se rend compte que l'alternative n'est pas si simple.
Oui, mais c'est aussi faire abstraction du fait qu'il y a toujours des gens qui se posent ces questions-là et qui continuent pas forcément dans le champ de la dans la science-fiction, ça l'est un petit peu, mais il y a aussi d'autres champs qui essaient d'explorer ces choses-là et de se dire, mais on ne peut pas s'arrêter aux représentations assez rétrotypes dont je parlais tout à l'heure. Il faut d'autres manières d'imaginer ces mondes possibles. Personnellement, moi, je trouve assez intéressant de regarder ce que des historiens ou des anthropologues peuvent écrire, parce que les anthropologues vont pouvoir nous raconter ce que dans d'autres cultures, ce qui se passe, ce qui peut être des manières de faire, des représentations différentes, des langues différentes, des conceptualisations différentes. Les historiens peuvent nous montrer comment dans le passé il y a eu d'autres manières de penser, il y a eu une autre manière de vivre le monde. Et du coup, ces manières de comprendre que dans d'autres cultures ou à d'autres époques, il y a eu d'autres manières d'exister, de composer des mondes, sont, au même titre que pu être la science-fiction à une époque, et encore un petit peu aujourd'hui j'espère, sont des manières de bousculer nos représentations et de se dire mais ça pourrait être autrement, on n'est pas forcément prisonnier de l'environnement tel qu'il est aujourd'hui.
C'est vrai que la science-fiction est quand même si ça a tendance à changer, un genre plutôt historiquement anglo-saxon, ou occidental en tout cas, de pays qui ne sont pas les pays émergents par exemple. Et on voit, c'est vrai que lorsque dans vos ouvrages vous parlez de nouvelles représentations du futur, on va plutôt devoir les chercher de façon géographique en dehors de ces territoires-là.
C'est un débat qui revient souvent, c'est de se dire mais qu'est-ce que serait qu'une science-fiction sud-américaine, africaine, turque, enfin, ou de toutes sortes d'autres endroits de la planète, asiatiques, qui sont des questions intéressantes, mais qui sont aussi problématiques, parce que la science-fiction en tant que telle, c'est une émanation quand même de la pensée occidentale et de la modernité. Alors, du coup, on peut aussi se dire, bon, c'est pas grave, il y a aussi des hybridations, des métissages, et on le voit actuellement, il y a toute une ébullition dans certains pays africains autour de la production de nouvelles, de romans, de courts-métrages, ou de choses qui peuvent être, dont on ne sait pas forcément comment les qualifier, mais qui pourraient être proches de la science-fiction. Je pense par exemple à un travail que j'ai vu récemment d'un photographe et d'un ethnomusicologue qui ont polonais, français et américains qui ont travaillé sur le Mali et qui se sont posé la question qu'est-ce que serait une espèce de Mali uchronique à travers des photos, des pièces musicales. C'était présent dans une galerie, la galerie Red Bull à Paris récemment. Fascinant, enfin, c'est vraiment de reprendre la logique de la science-fiction, de partir d'éléments d'aujourd'hui, d'imaginer les uchronies, mais de le faire sur des territoires autres, avec les acteurs de ces territoires, et de produire des choses qui sont... Enfin, moi, j'étais assez désarmé en voyant ça, en me disant, mais c'est très étrange, qu'est-ce que c'est? Et de se poser la question, justement, d'un autre type de manière de vivre le monde sur un autre territoire. Et ça, on va le voir, je pense, se multiplier à droite, à gauche.
Ouais, vous mentionnez plusieurs courants dans votre ouvrage, hein, que ce soit le favela chic, le Gulf Futurism ou le Gothic High Tech. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, ces courants qui peut-être sont demain des nouveaux courants de la science-fiction?
Alors peut-être prendre l'exemple de Gulf Futurism, le futurisme qui viendrait du Golfe. C'est un néologisme qui a été forgé par différents artistes, historiens, historiennes de l'art et auteurs de science-fiction qui sont dans les pays du Golfe. Je pense principalement Koweït, Émirats Arabes Unis, Liban, et qui se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'une représentation du futur qui viendrait de ces endroits. Et qui notamment se dit, mais les représentations de la ville du futur telle qu'on la connaît, très classique, avec des gratte-ciel, une présence de la lumière, de l'hologramme, eux se disent, mais ça c'est déjà arrivé chez nous, c'est du quotidien, c'est finalement pas juste une représentation science-fiction, il y a des architectes qui ont pris ça au pied de la lettre, et quand on vit à Dubaï, on a déjà ça. Et eux se disent, mais qu'est-ce qu'on peut, à partir de notre environnement quotidien, qu'est-ce qu'on peut représenter, quelle fiction, quelle narration on peut faire à partir de notre environnement qui est celui du désert, marié à la modernité, l'hypermodernité des gratte-ciels, de l'hyperconsommation, et qui développe tout un ensemble de travail. Alors certains peuvent être proches de la science-fiction avec des nouvelles ou des bandes dessinées, d'autres peuvent être plus proches de représentations artistiques avec des peintures, des projections. Et c'est tout un courant pour moi que je rattache finalement à la science-fiction comme un renouveau, en fait. C'est là que se passent des choses intéressantes de personnes qui veulent représenter des mondes différents, possibles, critiquables, à partir de leur propre culture. Alors, je pense que c'est un exemple intéressant. Il y en a d'autres. Le terme de Gothic High Tech, qui est un mot utilisé par l'écrivain et journaliste américain Bruce Sterling, qui utilise ce terme pour dire que la culture high tech, elle n'est pas juste réservée à une élite mondiale. Aujourd'hui, si on va dans des pays du Sud, dans lesquels il n'y a pas forcément les mêmes répartitions de richesses, on peut voir des gens dans des il utilise aussi le terme de favela chic. Il utilise un peu ces deux termes pour dire que on peut être dans une favela et en même temps avoir des gens qui sont suréquipés technologiquement et être aussi dans un endroit qui est très riche, au sommet d'une tour, d'un gratte-ciel à São Paulo, au Brésil, et puis avoir des gens qui sont dans une esthétique steampunk. Et donc, il utilise ces termes de favela chic, donc de mélange du pauvre, du bricolé avec une technologie très, très robuste et nouvelles, et d'un autre côté des représentations plutôt très riches de l'univers avec des technologies très, très anciennes. Il utilise ces termes pour montrer que les catégorisations qu'on avait auparavant, elles sont complètement chamboulées, et c'est aussi sur ces territoires que se passent des hybridations intéressantes. C'est pour ça que d'ailleurs il a monté une espèce de Fab Lab avec sa femme en banlieue de Turin, hein, Bruce Sterling, et lui explique même que c'est, en tant qu'auteur de science-fiction, il n'arrive plus à écrire la science-fiction, parce que pour lui c'est observer, documenter ce qui se passe dans ces territoires-là, dans ces pratiques, qu'il y a une espèce de renouveau des imaginaires, de la pensée science-fictive. Et enfin, quand on lui dit mais quand est-ce que tu vas écrire ton prochain roman de science-fiction, il dit je sais pas, peut-être je vais pas le faire, et je préfère monter un Fab Lab dans mon appartement en banlieue de Turin avec ma femme serbo-italienne, en accueillant des gens de partout dans le monde pour prototyper des choses sur l'internet des objets, voir quelles en sont les conséquences sur le monde, parce que c'est ça aujourd'hui la manière de faire de la science-fiction.
C'est vrai qu'on voit que dans les auteurs de science-fiction, il y a beaucoup de gens qui se détournent quand même du genre pur et dur, hein, non seulement parce que l'environnement scientifique dans lequel on est devient, non pas technologique, mais scientifique, devient quand même très complexe, et qu'il faut vraiment suivre de façon... et que c'est pas si facile d'écrire des nouvelles sur la théorie des cordes, des nouvelles de science-fiction. On n'est pas tous Greg Egan, hein, quand même. Après, le problème aussi, c'est que, comme vous l'avez bien dit, il y a cet environnement esthétique assez lisse. On l'a bien vu, par exemple, au festival Ars Electronica, qui est le festival de pointe sur les arts numériques, lorsque Mercedes présente sa nouvelle voiture auto conductrice, c'est-à-dire qui se pilote elle-même, elle ressemble à une voiture de science-fiction des années 50. Donc voilà, aujourd'hui même les grands ingénieurs reproduisent, comme vous le disiez, sur les robots humanoïdes, des imaginaires qui sont déjà là. Et peut-être que cette esthétique du bricolage, c'est une nouvelle forme justement, à la fois du bricolage purement de l'imagerie, hein, bricolée, mais aussi la manière de concevoir des projets qui sont eux-mêmes bricolés, qui sont faits de façon un peu différente des projets totalement top-down qu'on a l'habitude de voir dans les laboratoires.
Tout ce qui vient d'être dit là, ça renvoie aussi aux problématiques d'innovation qui sont dans des grands centres de recherche et développement, dans des entreprises privées ou des organisations publiques de recherche, dans lesquelles il y a eu un fort poids de ces rétrotypes et fort poids de ces représentations de l'avenir, et un intérêt pour la science-fiction, mais une vision un peu limitée de la science-fiction, et notamment de reprendre uniquement la fascination pour des nouveaux objets technologiques. Et du coup, ça laisse un peu de côté toute une autre part qui peut être plus critique, ou ça fait penser à cette citation de Frédéric Pohl qui dit la science-fiction, c'est pas juste prédire l'automobile, c'est anticiper l'embouteillage. Et on a un peu l'impression, quand on voit, je pense le cas de Mercedes c'est intéressant, de marques qui veulent se dire futuriste, proche de l'avenir, et puis qui n'en récupère que les codes de surface. Et donc, si vous prenez les publicités, par exemple, pour l'automobile aujourd'hui, en général, c'est quand même souvent basé sur une voiture avec derrière des espèces de gratte-ciel. On a un peu l'impression d'une esthétique un peu datée, un peu ancienne, de ce que c'était que des imaginaires un peu clichés de science-fiction, alors que ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et tout ce qui tourne autour de l'esthétique du bricolage ou de la création de formes plus ou moins réparées. Enfin, c'est un peu ce gothique high-tech dont parle Bruce Sterling. C'est le mélange de technologies de pointe, mais qui en même temps sont complètement bricolées, qui marchent pas plus ou moins à certains moments, pas à d'autres, et qui nous parle forcément dans une sorte d'esthétique de la panne, de la catastrophe, mais aussi de la résilience, du fait que les humains peuvent réparer, bricoler. On a vu ça dans toutes sortes d'œuvres de science-fiction. Moi, je suis assez marqué par Gun, le manga japonais, qui commence dans une décharge dans laquelle il y a ce bricolage d'un espèce d'humanoïde à partir d'objets dans une décharge. C'est quand même l'esthétique qui a de fortes chances de continuer à advenir, notamment parce qu'à partir d'un certain seuil, on va avoir des problèmes avec les technologies, les matériaux. On ne va pas pouvoir continuer sur ce rythme, de ce régime d'innovation permanent. Et du coup, pourquoi parler de ça dans le contexte de la science-fiction ? C'est que, il me semble déjà, d'une part, qu'il y a des auteurs de science-fiction qui ont mobilisé ces représentations-là, mais ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus marqué les personnes qui actuellement, aujourd'hui, sont nourries de ces représentations de science-fiction dans les laboratoires, qui veulent faire advenir des visions qui sont... globalement celle de Minority Report ou d'Iron Man, très très lisse, très léché, alors que souvent il y a une grande naïveté de ces représentations par rapport à leur diffusion et dans leurs usages.
Si la science-fiction, en tout cas dans le grand public, ne crée plus ces images du futur très originales, dans votre ouvrage, vous trouvez quand même des pistes. Il y a quand même des gens qui travaillent sur ça, en tout cas qui produisent des imaginaires peut-être qui ne sont pas totalement sans issue. Entre autres, autour de l'art, de l'architecture, du design, vous parlez beaucoup quand même de ce qu'on appelle de design critique et de ce que vous appelez aussi design fiction. Vous pouvez nous dire un mot sur ça, puis nous donner quelques exemples peut-être sur ce que sont ces objets qui peut-être permettent de réenchanter un peu le monde.
Alors, quand on utilise le mot design en général, hein, comme je disais tout à l'heure, on imagine du mobilier ou des revues de mobilier ou d'architecture, ce qui est un peu un problème, parce qu'en français on dit c'est design, on utilise ça comme un qualificatif, alors qu'en fait le champ du design, c'est un champ beaucoup plus large, hein, qui est lié à la mise en forme de produits qui ont certains usages. Hein. Historiquement, les premiers designers pouvaient faire des réfrigérateurs, des véhicules. Évidemment, il y a eu du mobilier. Aujourd'hui, des designers travaillent à faire des objets numériques, qu'il s'agisse de smartphones ou d'applications sur le smartphone. Donc, il faut déjà une vision assez large. Mais au sein de ce champ du design, il y a une partie une communauté qui s'intéresse à comment le design peut faire réfléchir et nous faire penser à des problèmes de la société. On parle de design critique. Il y a tout un courant autour d'un duo de designers anglais qui s'appelle Anthony Dunn et Fiona Rabi qui ont essaimé ensuite à travers différents types d'étudiants qui vont créer des objets qui n'ont pas vocation forcément à être utiles et utilisables par les gens, mais qui sont plus là pour nous faire réfléchir. Je pense à un exemple un peu classique d'un de leurs étudiants qui s'appelle James Hauger, qui avait fait une dent connectée, une espèce de dent qui permet d'être un téléphone mobile. Donc ils avaient fait ça dans une galerie, dans un musée. Ils avaient travaillé avec des informaticiens pour voir comment miniaturiser certains composants, le mettre dans une prothèse de dent. Et ce qu'il y avait eu d'assez amusant, c'est pas forcément la dent elle-même, parce qu'elle était là dans le musée, elle était un peu... elle posait question, mais la représentation était un peu facile. Ce qui est intéressant, c'est que des journalistes du Times sont tombés dans le panneau et ont cru que c'était vraiment une dent qui était un modèle de téléphone mobile et qui était fonctionnel. Et en 2002 ou 2003, je ne me souviens plus, la couverture du Times, c'était les gadgets les plus cools de 2002, et il y avait cette dent. Du coup, le designer en question a reçu une quantité d'emails phénoménale et de coups de téléphone de gens qui étaient soit furieux parce que c'était complètement inacceptable, soit de gens qui étaient très excités, ils disaient « mais où est-ce qu'on peut trouver cette prothèse de dent ? Je veux absolument avoir une dent téléphone. » Et donc il avait un peu, par cette espèce de jeu qui n'est pas un canular, mais qui est plutôt une manière de créer un objet pour amener du débat et de la discussion, il a atteint son but. Donc le design critique, c'est ça, c'est de de créer des objets qui vont être ensuite montrés à la société et qui vont faire parler, faire débattre. Et c'est un territoire parmi d'autres, hein, évidemment, dans lequel on pourrait se dire que ça répond à une logique qui est assez proche de celle de la science-fiction. La logique de la science-fiction de créer des formes narratives avec des objets fictionnels qui vont... le lecteur va devoir suspendre son incrédulité, hein, c'est le terme qui est consacré. Et c'est la même chose avec ces objets. On voit ces différents objets, on se dit, mais si ça existe, quelles en sont les conséquences? Et là, il y a plein de projets assez fascinants, hein, qui peuvent être parfois des collaborations entre des designers et des scientifiques. Je pense à un projet d'un groupe de designers anglais qui s'appelle Superflu, qui avait travaillé avec des biologistes anglais pour montrer comment l'optogénétique, donc une forme de assez particulière de génétique qui consistait à modifier des bactéries et les injecter dans les yeux de personnes, comment ça pourrait redonner ou améliorer la vue de personnes qui sont déficientes visuelles. Et ces designers ont produit une espèce de court-métrage qui pourrait être l'équivalent d'un court-métrage de science-fiction qui montre comment, à partir de cette technologie, il pourrait y avoir des objets qui aident des personnes déficientes visuelles pour montrer cette possibilité technologique. Autre projet qui est peut-être aussi un peu étrange, produit par des designers de ce courant design critique, c'est un robot qui regarde dans le ciel et dès qu'il voit un nuage qui a une forme plus ou moins humaine, il prend une photo. C'est basé un peu sur un résultat scientifique en psychologie, c'est que nous humains, dès qu'on voit des formes qui ont plus ou moins deux points alignés et puis un trait en dessous, on reconnaît un visage. Et donc le designer a programmé ça dans son robot, et évidemment c'est futile, on se dit mais ça sert à absolument rien, mais c'est là pour nous montrer que les machines aussi peuvent reconnaître des formes, peuvent participer dans une forme de lien avec la réalité. Donc c'est une autre manière peut-être d'une espèce de moi, je mets ça sur le même plan qu'une forme de poésie de la technique qui peut être présente dans la science-fiction, mais qui est véhiculée par des objets technologiques produits par des designers.
Ou par des artistes, ou
l'architecture, parce que ce courant de design critique, il existe aussi en architecture depuis très longtemps. Hein, dans les années 60, des courants d'architectes comme Archigram en Angleterre, où on avait un peu l'équivalent en France également, pouvaient non pas du tout construire des bâtiments qui avaient vocation à être bâtis, mais plutôt produire toute une quantité de représentations qui pouvaient passer par des livres, des expositions avec des schémas, avec des diagrammes, des maquettes, d'objets qui sont complètement futuristes et qui représentent la ville. Archigram avait produit un bouquin avec une espèce d'ensemble de représentations, de maquettes, de fanzines d'une ville qui pourrait se déplacer plus ou moins de la même manière que Christopher Priest dans le livre c'est le monde inverti, je crois, d'une ville qui se déplace sous la forme d'un train. Et donc on a comme ça une espèce de... Je trouve assez amusant de mettre en parallèle ces représentations de l'avenir qui peuvent être produites par des auteurs de science-fiction, mais également par des architectes, par des designers, par des artistes, et qui, parce que tous ces profils de personnes ont une manière d'absorber des changements du monde, des changements qui peuvent être sociologiques, technologiques, politiques, vont ensuite les mettre en forme. Alors, dans la science-fiction, ça passe souvent par la production qui peut être textuelle, de la nouvelle, ou graphique avec la bande dessinée, ou de court-métrage. Mais les designers, les architectes, les artistes peuvent utiliser toutes sortes d'autres formes, et qui sont toujours très vivaces, toujours très intéressantes, et qui parfois, moins, de mon point de vue, sont moins prisonniers de certains de ces rétrotypes dont on parlait tout à l'heure.
Mais on peut dire en fait que ces architectes, ces designers, ces artistes, ils font de la science-fiction soit sans le savoir, soit sans le revendiquer d'une certaine manière. Ça reste peut-être de la science-fiction. Peut-être qu'elle n'est pas assez présente dans le milieu de la science-fiction ou revendiquée, mais d'une certaine manière, quand Ken Rinaldo fait ses paparazzi bots, qui sont des robots automatisés, qui sont sur une scène comme celle-ci. Lorsqu'on monte sur scène sur le tapis rouge, ces robots viennent nous voir, nous prennent en photo et mettent notre photo sur Internet directement. Donc évidemment, ça questionne sur la question de la société du spectacle, du partage des photographies sans notre consentement, etc. Mais lui, avant que je lui dise que je trouvais que c'était de la science-fiction, il n'imaginait pas qu'il en faisait, il ne le revendiquait pas.
Ouais, absolument, mais c'est pas non plus... Ça ne vient pas de leur pratique ou leur univers à ces artistes-là. Certains peuvent être influencés, c'est de vouloir faire autre chose, mais le trait commun, et c'est peut-être ça qui est plus important, là, au fond, on s'en fout si c'est de la science-fiction ou pas, ou si on est proche ou pas. L'intérêt, c'est une passion, un intérêt pour demain, pour l'avenir, et essayer de trouver des formes qui nous fassent réfléchir à des changements possibles.
Oui, mais si ce n'est que dans le domaine même de la science-fiction, on pourrait aller voir justement dans des festivals des environnements qui sortent un peu des imaginaires dont on a l'habitude, peut-être même ne serait-ce que dans ce festival. C'est vrai que lorsqu'on va à Ars Electronica et on voit les œuvres de Andy Gracie, c'est un artiste qui travaille sur la biologie et qui est en train de designer justement une mouche censé vivre sur l'une des lunes de Pluton, je crois, je sais plus laquelle, et en fait il est en train de faire évoluer cette mouche drosophile à travers évidemment des dizaines et dizaines de générations pour la rendre absolument viable pour cet environnement évidemment non destiné à la vie. Et dans son propos, il explique que sur des quelques centaines de milliers voire millions de générations, donc de 250-300 ans, cette mouche elle sera tout à fait apte à vivre sur cette lune de Pluton. Mais je trouve évidemment dommage qu'on ne revendique pas en tant qu'amateur de science-fiction cette pratique comme étant science-fictive.
Ouais, effectivement, il y a une espèce de porosité entre ces différents mondes qui n'est pas forcément manifeste, mais on pourrait le dire aussi que certains architectes ne regardent pas forcément ce qui se passe chez des artistes et vice-versa. Donc, on peut peut-être faire se plaindre et critiquer la porosité de ces univers. Et du coup, quand on se dit, mais il y a une panne des imaginaires, on n'arrive pas à se représenter demain, ma lecture, c'est plutôt qu'il y a une cécité, une espèce de manque d'attention à d'autres domaines au cours de nous qui se posent finalement des questions assez proches de celles qui peuvent avoir lieu dans le champ de la science-fiction, sauf que les formes sont différentes, les codes à la fois esthétiques, narratifs, quand il y a de la narration, sont pas forcément présents, et ça peut être déroutant de rentrer dans ces univers-là. Maintenant, il y a des personnes qui sont un peu qui essaient de tisser des liens. Moi, c'était un peu mon projet dans le livre. J'ai fait ça chez les moutons électriques, et si ça a été accueilli aussi chez les moutons électriques, c'est aussi qu'il me semble qu'il y a quand même un intérêt chez certaines personnes dans le monde de la science-fiction de faire venir aussi ces représentations-là. À l'époque où fiction était encore publiée, il y avait des discussions autour de ces éléments-là. Moi, j'avais une chronique justement sur partir des questions d'aujourd'hui, comme le futurisme du golf dont on a parlé, des technologies actuelles, et de montrer en quoi elles nous posent question et en quoi il y a des projets artistiques et designers qui les questionnent au même titre que le feraient des auteurs de science-fiction. Et c'est, je pense, tout ça prend du temps, mais il y a une nécessité de casser un peu les murs, ça c'est certain.
C'est vrai qu'on l'a vu ici aux Utopiales, je crois en 2013, je crois que c'était en 2013-2014, Vincent Caillebault, qui est un architecte, qui produit des images de villes futuriste, entre guillemets, de bâtiments futuristes, un peu dans l'esprit de Lux Keuton, qui était également venu ici aux Utopiales en 2008 ou 2009, et qui lui disait que ces réalisations ne sont pas considérées comme pouvant être construites en Europe, aux États-Unis, mais par contre, dans le Golfe, elles sont en train d'être réalisées, et que le rapport à cet imaginaire-là n'est pas le même à chaque endroit.
Il ne faut pas non plus je crois qu'il n'y a pas des passerelles entre tous ces univers. Si on prend un film comme Minority Report, par exemple, donc nouvelle de Philip K. Dick, un réalisateur qui a quand même un certain intérêt aussi pour la science-fiction et sa production, qui mandate Greg Lynn, qui est un architecte américain qui se passionne pour ces questions-là, qui mandate Alex McDowell, qui est un producteur hollywoodien tout son travail consiste à représenter des imaginaires et des futurs possibles, qui est dans Avatar, dans Artificial Intelligence. Alex McDowell, pour bien travailler sur le film, décide que pour que ce soit pertinent, les interfaces dans Minority Report, il faut travailler avec des designers et des ingénieurs, donc collaboration avec le MIT Media Lab, avec des designers qui mettent en forme différentes interfaces, notamment cette fameuse scène où on voit Tom Cruise qui gesticule devant un écran. Donc on voit qu'il y a quand même des moments où il y a des oscillations quand même entre ces univers, mais il n'y en a certainement pas assez.
Mais est-ce que le fait que ce soit passé par un film de science-fiction a aidé à ces designers à faire réaliser ces projets? Est-ce qu'on va dans cette direction parce qu'ils ont été présentés à l'écran sous forme fictive ou de toute façon ça aurait eu lieu?
Bon, ça c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement du fait de l'exposition que j'ai, dont je suis le commissaire, qui va ouvrir la semaine prochaine. C'est les relations mutuelles qu'il y a entre les représentations fictionnelles de la technologie et ensuite leur avènement potentiel dans des laboratoires de recherche, des entreprises, etc. etc. Et dans le cas de Minority Report, même si les interfaces gestuelles existaient bien avant, hein, il y avait des artistes dans les années 70, je pense à Myron Kruger, qui faisait déjà ce genre de choses, il y a des mouvements de va-et-vient comme ça entre des représentations fictives et le design notamment d'interfaces. Hein, quelques années après Minority Report, hein, je me souviens quand la Nintendo Wii est sortie, quand Sony Move est sortie, quand Kinect est sortie, enfin, c'était vraiment Minority Report servait d'espèce de bagage culturel pour beaucoup de monde à arriver à positionner, à parler en fait de ces interfaces-là. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est pas nécessairement Minority Report qui a inventé du tout ces choses. Hein, on peut revenir, enfin, les interfaces gestuelles, c'est des choses qui existent depuis les années 70, qui est née de manière conjointe à la fois chez des ingénieurs, chez des artistes. Et puis, il y a des mouvements de va-et-vient comme ça au cours du temps. On pourrait retracer la même généalogie avec la réalité virtuelle. Hein, on voit des casques comme Oculus Rift aujourd'hui. Mais il y a une longue histoire de la réalité virtuelle, des casques qui permettent de voir en 3D. Et il est très difficile, évidemment, de savoir où est-ce que ça a commencé. Est-ce que c'est dans des représentations fictives ou est-ce que c'est dans des laboratoires de recherche? Il y a un petit peu des deux. On peut retrouver des brevets Ivan Sutherland, qui est un ingénieur américain, je crois qu'il est autour de 1970, 72, qui avait déjà ou même des années 60, fin des années 60, qui produisait ça. Mais il y avait aussi en même temps des représentations de ce genre chez certaines personnes qui produisaient des imaginaires sur ce que serait qu'une réalité virtuelle qui se traduisait pas du tout sous les mêmes formes, mais finalement ce mouvement de va-et-vient conjoint est intéressant parce qu'il montre que on vit tous dans un espace de représentation. Ces représentations circulent et elles ont une influence sur le design, l'ingénierie, sur l'évolution de ces représentations après coup, et qu'il est assez difficile de s'en distancer. C'est un peu la critique que je faisais tout à l'heure sur les rétrotypes, hein, d'imaginer autre chose que des interfaces gestuelles, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des interfaces vocales, pour citer quelques exemples, hein, présents dans la science-fiction et dans l'ingénierie ou dans le design. Trouver autre chose que ça, c'est difficile parce que finalement, on est prisonnier de ces représentations. Et c'est parce qu'il y a certaines personnes qui, dans des champs qui peuvent être ceux de l'art, du design, mais parfois aussi de l'ingénierie, qui s'en foutent des catégories, qui bougent un peu ses limites, que de fil en aiguille, on voit des représentations différentes qui adviennent.
Merci Nicolas Lova. Peut-être qu'on ouvre quelques minutes aux questions de l'assistance, s'il y en a. Pas de questions, tout a été limpide. Moi, j'ai encore une question par rapport au rapport entre le rapport entre numérique et science-fiction. Vous évoquez on a beaucoup de temps, donc je vais faire assez vite. Vous évoquez dans votre ouvrage la question de la nouvelle, de ce qu'on appelle New Aesthetic, qui a été développée par un artiste et designer anglais, James Bridle, et comment les formes du numérique aujourd'hui rentre dans le réel. Et j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez en rapport avec la science-fiction et l'imagerie du futur.
Alors, James Bridle, c'est un artiste anglais qui a commencé à collecter toutes sortes de représentations du numérique qui se dégagent autour de nous. Il montrait des exemples d'une couette à la maison avec des QR codes, hein, ces formes de visuels que vous pouvez scanner avec votre téléphone, des fontaines pixelisées, des objets dans la rue qui n'ont pas été conçus pour forcément être des textes qui n'ont pas forcément été conçus pour être lus par des humains, mais par des machines. Enfin, toutes sortes de représentations et particulièrement graphiques qui existent dans le monde autour de nous et qui sont des émanations en fait du numérique. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, il a appelé ça nouvelle esthétique, new esthétique. Ça, je ne pense pas que ce soit la partie la plus intéressante parce que la question de l'esthétique, elle est un peu problématique en art, mais toutes ces choses-là sont intéressantes par rapport à ce qu'on discute ici et par rapport à la science-fiction, parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément été anticipées ou pas forcément été, j'ai pas envie de dire prédit, mais perçues par beaucoup de personnes dans la science-fiction. La manière dont le monde pourrait être tapissé de ces représentations, ça a été un peu c'est un peu surprenant. Et c'est là encore une fois son travail de compilation de ces exemples, pour moi, participe de nous montrer, à la manière d'un auteur de science-fiction, les problèmes et les enjeux de demain. Qu'est-ce qui se passe quand les machines lisent le monde autour de nous? Il a par exemple, il mettait en ligne une vidéo d'un designer norvégien qui s'appelle Tim Warnall, qui s'appelle Robot Readable World, le monde lu par des robots, dans lequel on voit des séquences qui sont prises de caméras de surveillance, dans lequel on voit des humains qui se déplacent, des voitures qui se déplacent avec des flèches, des carrés au-dessus qui montrent comment les machines reconnaissent les formes autour de nous. Et ça, enfin, c'est une vision terrifiante de ce que c'est que finalement une société automatique qui lit tous nos déplacements dans l'espace. Et James Randall met ça dans cette catégorie de nouvelle esthétique en disant, mais c'est ça, un auteur de science-fiction aujourd'hui devrait parler de ces choses-là, devrait montrer ces choses-là. Alors, il y en a certains qui le font, hein, évidemment, un peu moins à l'époque où ils le mettaient en avant. Et c'est intéressant parce que ça nous montre finalement les formes de machinisation du monde, au même titre que la machinisation du monde a été montrée par des auteurs dans les années 40, 50, 60, etc. Et il le fait il écrit pas forcément un texte de science-fiction, il le fait à la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire il ouvre un Tumblr et puis il met plein d'images et il les commente, et à force ça donne une espèce de cohérence générale entre toutes les images. Il en parle, il fait des conférences, il crée des projets à partir de là, et c'est peut-être ça moi que je retiens de ces questions de new esthétique ou de design critique, ou de la manière dont des artistes ou des architectes ou des designers s'emparent des technologies d'aujourd'hui pour nous parler de demain, c'est de le faire à la manière d'aujourd'hui, et que c'est peut-être pas d'utiliser des formes narratives classiques, qui peuvent avoir leur intérêt, hein, évidemment, mais il y a d'autres manières de raconter les choses, de documenter le monde, de documenter les aspects critiques de problèmes d'aujourd'hui, et de spéculer sur ce que ce sera demain, et ça me semble être une matière légitime, intéressante, pour toute personne qui s'intéresse à la science-fiction. Évidemment, il faut être prêt un peu à être un peu désarçonné, parce que c'est pas forcément les mêmes codes visuels, c'est pas les mêmes codes narratifs, mais c'est là que se passe c'est un moment intéressant de réflexion par rapport à notre relation à la technique, par rapport à toutes sortes de questions qui étaient prévalentes dans la science-fiction et qui se traduisent par ces formes différentes.
Merci Nicolas Lava. Donc il y a une autre science-fiction en dehors du champ tel qu'on le connaît habituellement dans un environnement comme celui-ci. Merci à vous tous. Merci Nicolas.
Merci.